Je pensais vous donner quelques éléments sur la jeunesse du film, la place de son film dans son œuvre. Alors, le film est situé entre Les Lumières de la Ville, 1931, et Le Dictateur. Et je vous l'ai dit, c'est la dernière fois que Charlot, en tant que personnage, apparaît dans ses films. Ensuite, il va renoncer. C'est pas rien pour lui de renoncer à son personnage de Charlot. Et ça montre une double inadéquation. Il y a une inadéquation dans le sujet du film, c'est-à-dire que Charlot n'est plus en conformité, en adéquation avec l'époque, c'est-à-dire que ça va trop vite. Il y a vraiment une idée d'une accélération du temps. On le voit d'ailleurs, le générique débute avec une horloge, c'est le temps, et toute la première partie est sur l'accélération. Donc on voit que le temps moderne, en tout cas le temps de 1936, date de sortie du film, n'est plus le temps de Charlot. Donc c'est la première inadéquation. Et puis il y a une autre inadéquation qui est plus cinématographique, c'est qu'il n'est plus en phase avec le cinéma qui est devenu parlant depuis 1929. Donc c'est assez intéressant de voir que déjà, de par sa filmographie, ce film-là raconte l'histoire de quelqu'un qui n'est pas à sa place. Et en fait, toute la mise en scène, globalement, repose là-dessus. C'est-à-dire que chaque fois, Charlot n'est pas à sa place. On l'a vu encore là dans la scène du restaurant. Au lieu de rentrer par la porte in, il rentre par la porte out. Et forcément, c'est le chaos. Donc c'est quelqu'un qui vraiment, dans ce film-là, développe cette théorie selon laquelle il n'est vraiment pas à la place et qui va hanter tout le film. Quel inconfort cela apporte, quel chaos cela donne. Et puis il y a vraiment une adéquation au rythme de la modernité. Et ça pose aussi la place qu'il occupe dans l'espace. Où est-ce que je me positionne? Et forcément, vous avez vu, alors là c'est vraiment patent dans tout le film, il n'est jamais à la bonne place. Mais vraiment jamais, jamais. Il est toujours absolument là où il ne doit pas être, jusqu'à faire dérailler le système au sens propre, puisqu'il fait carrément exploser la machine de l'usine. Donc voilà, ne pas être à sa place a des conséquences assez fortes. Alors sur la jeunesse plus... Parce que là, j'avance déjà un peu sur la thématique. Sur la jeunesse, pour vous dire que Chaplin avait fait le tour du monde avec Les Lumières de la Ville. Il est allé évidemment aux États-Unis, en Europe, mais aussi en Asie. Il a rencontré les grands penseurs de l'époque, alors Churchill, Einstein... Einstein qui lui avait dit « Vous n'êtes pas un acteur, vous êtes un économiste ». Ce qui est assez amusant, puisque là aussi on est quand même sur un discours. On pourrait lire le film à la lecture de la crise économique, d'ailleurs on peut le faire, la crise de 1929, qui a été une crise que vous connaissez bien. Il a rencontré Gandhi aussi, et puis il s'est aussi basé sur les effets dévastateurs de la crise de 1929. Ça peut être intéressant si vous donnez des cours d'histoire de parler de cette crise-là. Et il a appris aussi de manière très concrète que des fils de paysans ont été recrutés donc à la fin des années 20, juste avant la grande crise, dans des usines où on a mis en place le taylorisme, hein, vous savez ce que c'est la standardisation, donc c'est ce qu'on voit tout à fait dans la chaîne de travail, et que de nombreux jeunes gens en sont sortis avec des dépressions nerveuses. Donc il s'est vraiment documenté, comme chaque fois qu'il a dû travailler. Et puis évidemment, la question qui l'intéresse, c'est le chômage. Le chômage, voilà la question essentielle. Les machines devraient faire le bien de l'humanité au lieu de provoquer tragédie et chômage. Alors pour vous dire aussi qu'il a soutenu Roosevelt en 1932, le soutien du National Recovery Act contre le travail des enfants et relèvement des salaires. Donc il y avait aussi, en filigrane, quand même un engagement politique qui est assez important. Mais attention, et ça je trouve que c'est important aussi, c'est André Bazin qui est un grand critique de cinéma, qui a dit « Attention, ce n'est pas un film à thèse. Son affirmation ne se situe jamais sur le terrain de la politique ou de la sociologie, mais uniquement de la morale et toujours par le style. » Et c'est ça qui fait sa grande force. Ce n'est pas un tract politique, c'est vraiment quelqu'un qui s'exprime déjà avec son art et qui va parler du monde réel. Et c'est aussi, malgré tout, à partir de ce film qu'il va être poursuivi par la Commission des activités non américaines qui préfigure le macartisme. Chaplin a de nombreux problèmes avec l'administration américaine. On l'a accusé d'anti-américanisme. Et puis, évidemment, comment dire, je trouve que cette scène où il ramasse le drapeau est tout à fait symptomatique du malentendu de Chaplin comme porteur de la cause communiste. En fait, il ramasse le drapeau. Encore une fois, il n'est pas à sa place. Il est pris pour le leader de la manifestation, ce qu'il n'est pas du tout. Et ça, encore une fois, c'est typiquement la question de la place, de ne pas être à sa place, et des conséquences de ne pas y être. Juste aussi sur la jeunesse du film, il va tourner avec Paulette Goddard, qui est aussi son épouse. Je ne vais pas rentrer dans la vie matrimoniale de Chaplin, je vous laisse la découvrir sur Internet, ou sur sa biographie. Elle tournera aussi dans Le Dictateur, elle sera la petite amie du barbier du ghetto. Le film commence par le barbier. Vous dire aussi que le film, on l'a accusé de plagier un film de René Clair. Bon, après, on trouve ça dans tous les dossiers, qui avait travaillé sur la question justement du travail et qui avait fait des très belles scènes à l'usine, mais en fait, le procès n'est pas allé très loin. Et puis, on peut ressentir notamment au début une petite influence peut-être de Metropolis, le film de Fritz Lang de 1927. Si jamais vous avez un DVD au CDI, ça peut être sympa de montrer quelques images. Il y a ce côté du gigantisme, quand même, de l'écrasement de la machine, de l'homme par la machine. Et je trouve que ça s'en rapproche bien. Donc, quelques plans de Metropolis ne nuisent pas dans votre petite présentation. Mais ce qui est essentiel dans ce film-là, c'est la question du son. Donc, le cinéma, je vous l'ai dit, est devenu parlant depuis Le Chanteur de Jazz en 1929. Et si Charlot se mettait à parler en anglais, puisque c'est sa langue natale, il est anglais, hein, je vous rappelle, il deviendrait intelligible pour une grande partie du public international. Parce que qu'est-ce qui fait que Chaplin a connu un tel succès? C'est qu'il ne parlait pas. Il a produit ses films aux États-Unis. Les États-Unis, à cette époque-là, étaient une terre de migration, donc il y avait des gens du monde entier. Et donc, le fait d'être muet, si je puis dire, c'est un langage universel. Donc, renoncer au fait d'être muet, ouvrir la bouche, c'est un risque artistique et économique très important pour Chaplin. C'est quelqu'un aussi, on n'avait peut-être pas insisté sur Chaplin, qui avait un sens de l'autopromotion permanent, du marketing, même on pourrait dire, et de la vente. Souvent, ces films muets, il les a retravaillés pour les ressortir en retravaillant sur les bandes-son. Je pense notamment à La Rue vers l'or, dont on verra un petit extrait tout à l'heure, pour pouvoir redonner une nouvelle vie économique à ces films. Donc cette question-là est à la fois artistique, mais elle est aussi tout à fait économique. Il avait prédit, lui, que les films parlants ne dureraient pas plus de 6 mois. Il pensait que c'était une mode. On voit qu'il s'est un petit peu trompé. C'est un peu comme les frères Lumière qui avaient dit, de toute façon, cette invention-là, ça ne va pas aller bien loin. Je le cite, « Les dialogues peuvent avoir leur place dans la comédie ou pas, mais ils n'ont pas de place dans le genre de comédie que je fais. En ce qui me concerne, je sais que je ne peux pas avoir recours au dialogue. » Donc pour lui, c'était impossible. C'est ce qu'il disait en 1931. Donc ça, on est quand même juste 2 ans après la venue du cinéma parlant. Et quand on lui demandait s'il avait essayé d'utiliser la bande-son dans ses films, en tout cas à la parole, Chaplin disait « Je n'ai jamais essayé de me jeter du monument de Trafalgar Square, mais je suis pourtant convaincu que ce serait une mauvaise idée. Pendant des années, je me suis spécialisé dans un genre de comédie, la pantomime pure. Je l'ai mesuré, évalué, analysé. » On voit vraiment, on le voit d'ailleurs, là, toute la précision de la gestuelle, la précision dans les déplacements. C'est vrai que c'est millimétré. Dans les décors aussi, enfin, y a un soin absolument maniaque. C'est pour ça que les films sont toujours aussi formidables à voir aujourd'hui, c'est qu'il y a une telle attention à chaque détail que les films n'ont pas vieilli. Donc je l'ai mesuré, évalué, analysé. J'ai réussi à en établir les principes exacts afin d'en maîtriser les effets sur le public. Cette comédie-là possède un rythme et un tempo propre. Le dialogue, à mon sens, ralentit toujours l'action, car celle-ci doit alors se plier aux mots. Donc vous voyez à quel point il était complètement réfractaire au fait de passer au parlant. Et Les Lumières de la Ville en 1931, donc son film précédent, était encore un film muet. Alors, muet, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de son, qu'il n'y a pas de bruit. Notamment, il y a la place de la musique qui est très importante chez Chaplin. Sachez aussi, vous le savez certainement, qu'il était à l'origine de la plupart des compositions musicales, j'y reviendrai, de ses films, dont celui-ci. Il se fâchait souvent avec les chefs d'orchestre. Mais c'est lui qui écrivait la ligne mélodique. Après, il y a des gens qui l'assistaient, mais la musique est de lui. Et la musique qu'on entend à la fin, avec le générique, s'appelle Smile. Et elle a été retravaillée, on lui a donné des paroles, et c'est devenu un tube planétaire, chanté par Judy Garland, Michael Jackson, etc. Donc, pour vous dire aussi à quel point Charlot fait partie de la culture populaire. Bon, je digresse un peu, mais c'est pour vous dire à quel point les films étaient certes muets, mais ils étaient sonores. Et on y reviendra un petit peu tout à l'heure. Les Lumières de la Ville, ceci dit, en 1931, bien qu'encore muet, avait rapporté autant d'argent qu'un film de parlant de la même année, voire plus. Mais le modèle économique valable en 1931 est quand même plus difficile à assumer en 1936, 5 ans plus tard. Ça va très vite. Le public s'est habitué à entendre parler les personnages dans les films. Donc, difficile pour lui de l'ignorer. Et toute la réflexion de Chaplin qui dit ceci, « Je n'arrive pas à fixer mon projet ». Il est vraiment entre deux eaux. Il est entre l'acceptation et le renoncement. Et je le cite encore un petit peu. « Il me semblait que tourner un nouveau film muet serait me donner un handicap plus lourd. Et puis j'étais obsédé par la crainte d'être démodé. » Vous voyez, encore cette idée de vouloir toujours être au plus près des attentes du public. Un bon film muet avait beau être plus artistique, j'étais bien obligé d'admettre que le son donnait plus de présence aux personnages. Je songeais parfois à la possibilité de tourner un film sonore, mais cette perspective était déplaisante, car je me rendais compte que je ne réussirais jamais à atteindre l'excellence de mes films muets. Il me faudrait également renoncer totalement à mon personnage de Charlot. Certains me suggéraient de le faire parler, c'était impensable, car le premier mot qu'il prononcerait ferait de lui de quelqu'un d'autre. Donc il a pas d'autre solution à la fin de ce film-là que de le faire disparaître. Il a très bien compris que la parole et Charlot, c'est complètement incompatible. Et d'où cette très belle scène de fin qu'on peut lire à plusieurs niveaux. Évidemment, ils vont vers la liberté, mais en même temps, c'est un adieu au personnage sur la route avec Paulette Godard. Et vous connaissez peut-être la belle chanson de Nougaro aussi avec la petite Paulette Godard, ça vous dit quelque chose. Bon, c'est un petit peu de ma génération, mais c'est pas grave. Voilà, donc il y a cette réflexion-là. Sachez qu'il a quand même, il est allé jusqu'au bout de sa réflexion, puisqu'il a tourné une scène parlante avec un dialogue, il a écrit un dialogue, il l'a filmé, mais finalement il ne l'a pas intégré au film. Donc vous voyez, il y a quand même cet entre-deux, cette hésitation permanente. Alors un petit mot sur le tournage, il a duré de octobre 1934 à août 1935, c'est tourné pour la plupart du temps en studio Hollywood et à l'extérieur, il y a beaucoup d'extérieur, ce qui donne aussi une fraîcheur au film, je pense à toutes les scènes, on voit les usines à l'extérieur, de la cabane, enfin, on voit très bien que c'est des décors tout à fait naturels et parfois on voit tout à fait aussi qu'on est en décor, je pense notamment au trucage du bateau qui s'en va, on voit vraiment la surimpression, on voit beaucoup la surimpression des écrans aussi, bon, c'est en 1936, mais il y a quand même une sorte de modernité avec un petit côté Big Brother quand même, qui est très étonnant, hein, de surveillance du travail. Et pour la scène donc il a fait construire une sorte d'usine, enfin une fausse usine, et comme ça ne suffisait pas, il a filmé des maquettes qu'il mettait légèrement en haut, par exemple des cylindres qu'on voit, pour donner l'impression de hauteur et de grandeur. Donc c'est un mélange de reconstitution en taille réelle et avec des maquettes. Pour la scène des engrenages, qui est particulièrement angoissante, enfin moi je le trouve comme ça, il s'est inspiré de son expérience chez un imprimeur. Il travaillait sur une presse de 6 mètres de long et il avait peur d'être englouti par la presse. Et c'est vraiment là aussi cette façon, pourquoi les films de Chaplin nous parlent, parce que ça vient souvent de sa vie. Je parlais tout à l'heure du rapport à la nourriture. Chaplin, pardon, évidemment on le mélange, c'est quelqu'un qui est né avec la faim. Voilà, c'est son moteur dans le film, c'est vraiment le fait de manger. Il y a une autre fin, alors je pourrais vous montrer à la fin, j'ai quelques images. Il imaginait que la petite Paulette Godard, la gamine, alors c'est assez étonnant, vous avez vu, il n'y a pas de E à gamine, il a écrit comme ça, après il a, je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est une expression qu'il a prise au français, mais il l'appelait la gamine. Et il imaginait que la gamine devenait religieuse. Et que le pauvre Charlot parlait tout seul. Alors j'ai quelques photos de Paulette Godard religieuse, ça marche pas tellement, et finalement il les a pas incorporées au film. Je crois qu'il a bien fait, mais il voulait retrouver le côté un petit peu, pas larmoyant, mais un petit peu feuilletonesque, des Lumières de la ville, vous savez, avec cette histoire d'aveugle, etc., qui reconnaît. Voilà, Chaplin était quelqu'un qui aimait beaucoup les scènes sentimentales, et là je pense qu'il s'était un petit peu emballé, mais finalement il l'a pas intégré au film. Alors évidemment, le film fut accusé de prendre fait et cause pour le communisme. Il a été interdit en Allemagne et en Italie, mais en Allemagne, évidemment, contexte 1936, je vais être assez bref, on suspectait des origines juives, donc forcément irrecevable, et puis on n'aimait pas du tout cette petite moustache qui faisait penser à quelqu'un d'autre qui avait la même petite moustache. Donc cette idée qu'il puisse ridiculiser quelqu'un de très en place à l'époque débouche sur le fait qu'il était interdit. On lui reprocha aussi un côté compilation. C'est pas inintéressant, de faire une sorte de ressuscité de ses anciens films, genre Charlot Patine, qui est une petite merveille, ou Charlot Chef de Rayon. C'est pas faux, mais c'est ce qui fait aussi la force des films, c'est-à-dire qu'on reconnaît des œuvres anciennes. Il y a une sorte de recommencement, de recyclage. Et puis en fait, je sais pas vous, mais moi, la scène du patin à roulette, voilà, ça reste un des grands moments. Il y a beaucoup de scènes cultes, hein, comme dans beaucoup de films de Chaplin, qui n'ont jamais été oubliées. Et puis, les recettes ont été un petit peu moins élevées que pour les Lumières de la ville, avec 1,4 million de dollars. Donc aux États-Unis, on compte en dollars et pas en entrée, ce qui vous donne un petit peu l'état d'esprit de nos deux pays, France et États-Unis. Donc je vous le disais, au niveau de... Voilà, j'ai peut-être un petit peu long, mais ça me semblait important de donner le contexte. À la fois ce contexte historico-économique de la Grande Guerre, du chômage, des jeunes gens venus travailler à l'usine, ce tour du monde pour voir un petit peu l'état d'esprit, cette question sur le chômage, et puis cette question du rapport au cinéma muet, au cinéma parlant, ces hésitations qu'on sent dans le film. Il y a des voix humaines, mais ces voix humaines, la plupart du temps, passent par un outil, un appareil. Elles ne sont pas directes. C'est vraiment une mise à distance de la voix, de la parole humaine. Ce sont les haut-parleurs, c'est la radio, c'est le tourne-disque. Rien n'empêcherait que quelqu'un vienne présenter cette horrible machine à manger, mais en fait, c'est un disque. Donc je pense qu'il y a vraiment cette idée de prendre du recul avec la parole. Et finalement, les seules paroles en live, entre guillemets, c'est les chansons. Les chansons des garçons de café et sa chanson en grommelot, sa bière. Enfin voilà, vous trouvez le mot qui vous plaira. Mais en tout cas, j'aime bien grommelot. Je trouve ça assez joli, mais j'y reviendrai un tout petit peu tout à l'heure. Peut-être juste avant de rentrer vraiment dans le cœur de l'œuvre, je vais présenter un petit extrait qui est un film de 1917 qui s'appelle Les Migrants. Qui est un court-métrage, on comptait en bobine à l'époque, de deux bobines, il a fait une bobine, là c'est deux bobines, c'est pour la Mutual, il a changé de nombreuses fois de société de production. Et Les Migrants est intéressant puisque c'est Charlot qui quitte l'Europe pour les États-Unis. Donc là encore, c'est son histoire. Et puis c'est une façon, alors c'est un film qu'on trouve assez facilement, je pense qu'on peut même le trouver sur YouTube, vous pouvez montrer à vos élèves pour dire qui est Charlot, parce qu'il n'est pas évident qu'un jeune collégien aujourd'hui connaisse Chaplin. Donc je trouve que c'est une petite introduction, ça dure 4 minutes, enfin l'extrait que je vous ai proposé, et puis je vous en dis un petit mot juste après. Donc c'est un petit extrait de Les Migrants, et puis si j'ai un petit peu de temps, je vous parlerai d'un outil qui existe aux écrans dessus, qui s'appelle Cinément, et qui comprend le court-métrage et des photogrammes avec des aimants pour travailler dessus. Donc voilà, à la fin de l'intervention, je vous invite à venir le regarder. Donc un petit extrait de Les Migrants. Près de l'écran, ça me donnait le tournis. Alors que sur mon petit écran, quand j'ai préparé, ça allait. Mais là, c'est vrai que ouf. Alors pourquoi j'ai choisi ça? Alors je vais vous faire passer, parce que je vous avais promis quand même. Si vous voulez voir, on va faire passer le livre. On voit les photos de la petite Paulette Godard en religieuse. Sachez que dans les ressources aussi, il y a un site qui s'appelle charliechaplin.com. Il est super. Parce qu'il y a tous les films, tous les résumés, toutes les conditions de production et beaucoup d'images. Et vous retrouverez notamment les images de la petite Paulette Godard en religieuse. Enfin, je trouve ça assez rigolo. Je ne sais pas, ça ne marche pas, je trouve. C'est assez joli. Pourquoi j'ai choisi cet extrait? Parce que je trouve qu'il y a toute Chaplin. Il y a déjà, comme je vous l'ai dit, une référence autobiographique. C'est sa vie. Voilà, Chaplin a quitté l'Angleterre poussé par la famille. Et en fait, c'était un enfant de la balle. Hein. Ses parents étaient des gens du music hall. Et ensuite, il a été embauché dans une compagnie américaine. Et c'est là qu'il a fait ses premiers plats sur les planches, qu'il a expérimenté le projet, j'ai envie de dire, de Chaplin, enfin de Charlot, le personnage qu'il a mis à l'épreuve avant de le filmer. Donc, on sent ce rapport à la scène. Donc, première chose, ce côté autobiographique, très important. Et le sens de l'histoire aussi. La migration, c'est quand même le grand fait des États-Unis au XXe siècle. Donc ça, c'est quand même pas rien. Donc ça, c'est la première raison. Après, aussi, c'est l'idée, si vous montrez un extrait de celui-là ou un autre à vos élèves, c'est le côté marketing, j'ai envie de dire, du personnage, en tout cas iconique, c'est sa silhouette, la canne, le chapeau melon, la moustache, les godillots. Une sorte de signature visuelle, et c'est très moderne pour l'époque, c'est-à-dire on voit un chapeau melon, une canne, une moustache, on sait que c'est lui. Donc c'est un des premiers qui a su, alors il n'y a pas TikTok et tout ça à l'époque, mais c'est un des premiers qui a su avoir une sorte d'icône, d'image, presque de vente, presque de produit du cinéma. Et là on le retrouve bien, et aussi une de ses signatures, c'est sa démarche, très singulière. Les pieds, alors je ne vais pas le faire sinon je vais tomber, mais voilà, ces pieds qui sont un petit peu dans un drôle de d'orientation, une drôle de position. Et puis aussi, ce que j'aimais aussi dans cet extrait, c'est le détournement, c'est-à-dire qu'il n'est jamais là où on l'attend, il est penché par-dessus bord, et comme ça tangue, on imagine qu'il vomit, ben non, il pêche. Et ça, c'est typiquement un gag chaplinesque, c'est une sorte de détournement de ce qu'on attend. Ça marche bien, et c'est l'effet de surprise qui est aussi un effet de la comédie. Et puis, on le voit, il y a deux thématiques qu'on retrouve dans les temps modernes. C'est la nourriture. Soit il ne mange pas à sa faim, soit c'est douloureux ou compliqué de se restaurer. Alors là, c'est compliqué pour tout le monde. Le bateau tangue, il est pratiquement impossible d'accéder à la soupe servie dans le bateau. Et problème d'indigestion, de reflux et de hoquet. Le hoquet, on pourrait presque le dire aussi, ça fait partie du personnage de Charlot. Ce sont de régurgités, de je ne sais pas comment dire, mais en tout cas, il y avait dans Le Cirque, qui est un film magnifique aussi, il mange un œuf, ça ne se passe pas très bien. Et il a le hoquet dans presque tous ses films. Voilà. Soit il mange à sa faim, soit il mange trop. Il y a juste un moment où ça se passe bien dans le film, c'est quand, enfin entre guillemets, ça finit pas très bien, c'est quand il se rend au restaurant et qu'il prend deux énormes plateaux, il mange trop. De toute façon, c'est jamais, enfin entre guillemets, c'est jamais bien. C'est jamais, d'ailleurs c'est irrégulier, c'est soit trop, soit pas assez, donc il y a un problème de volume. Et là, en plus, c'était illégal puisqu'il était avec le policier, il savait qu'il allait se faire arrêter. Donc c'est pas du restaurant basket, c'est tout l'inverse. C'est le restaurant basket, c'est quand on part, vous savez peut-être pas, si. C'est quand on part sans régler l'addition. Lui, il le fait de façon assez inattendue, et c'est assez intéressant d'ailleurs ce gag, c'est tout l'inverse du gag classique. Ce sera pareil pour la tarte à la crème. La tarte à la crème, c'est le gag le plus éculé du cinéma, il s'en est beaucoup moqué dans le film Le Cirque. Parce qu'il y a des clowns traditionnels qui sont des tartes à la crème, personne ne fait rire, ça fait rire personne. Mais quand lui détourne la tarte à la crème, c'est drôle. Et là, c'est exactement pareil. Il en fait un usage assez étonnant. Il y a toujours cette idée de détournement. Donc voilà, je trouve cet extrait assez riche pour une présentation du personnage. Un extrait qui pourrait être montré, par exemple, avant la projection ou après. Qu'est-ce que vous reconnaissez? Qu'est-ce que, voilà, comment on sait que c'est Charlot? Qu'est-ce qui fait qu'il est spécial? Qu'est-ce qui est drôle chez lui dans sa démarche? Comment est-ce qu'il est habillé? Voilà, il y a un costume très cintré, c'est très sportif aussi, hein, mais c'est très américain, ça aussi, ce côté one-man show permanent, et tout bouge, on le reverra dans la scène du repas. C'est quelqu'un qui, des orteils au sommet de la tête, il joue avec son nez, enfin, c'est incroyable. Est-ce que vous avez déjà vu des acteurs jouer avec son nez, comme ça, dans la scène de la nourriture, quand il bloque la machine avec le maïs, avec le nez? C'est vraiment un artiste complet et assez exceptionnel. Alors, j'en arrive sur les thématiques, vraiment, là, c'était une sorte d'apéritif pour vous repérer un petit peu, en tout cas pour vos élèves dans le film. Il y a une première chose qui est importante, et aussi importante que de regarder le film, c'est de l'écouter. Et c'est super, je trouve, pour se poser la question avec les enfants sur à quoi sert le son. Alors là, évidemment, il y a le son comme accélération avec la musique. La musique va de plus en plus vite, donc elle va aussi vite que la machine, enfin elle essaye. Il y a à un moment donné une sorte de synchronisation entre des bruits et des images. Et puis, évidemment, donc la musique, je vous l'ai dit, c'est Chaplin qui a composé lui-même cette musique. On a les bruits de machine, on a les sonneries, les klaxons, parfois une sorte de bruit de fond. Et la voix humaine, je vous l'ai dit, on l'entend par un disque, un haut-parleur, la radio. Et les seules paroles intelligibles, c'est les chansons. Et puis, elles sont soit trop fortes, agressives, déplacées. Et Chaplin a réussi à ne pas parler, mais on va entendre sa voix quand il va chanter. Et c'est pas rien. Donc la chanson, je vous ai dit, on pouvait appeler ça du sabir. Le sabir, le sens propre, c'est un jargon mêlé d'arabe, de français, d'espagnol et d'italien. Et par extension, c'est un langage incompréhensible. Je trouve ça assez joli, sabir. On pourrait dire que c'est du charabia. Peut-être plus accessible pour les enfants. Et on parle aussi de grommelot, et ça, ça a été souvent retenu pour cette séquence-là. C'est un style de langage utilisé dans le théâtre satirique, utilisé dans le mime et dans l'imitation, notamment dans la Commedia dell'arte. Et ça me semble aussi très bien convenir. Et il y a toutes ces dimensions évidemment théâtrales de Chaplin, dont j'ai parlé il y a quelques minutes, sur toute son expérience sur la scène londonienne et américaine. C'était quelqu'un qui fait beaucoup de tournées. Et la chanson d'origine s'appelait Titina, et là c'est un mélange de français, d'italien et d'allemand. La chanson, et c'est quand même pas rien, était filmée en direct. J'entends par là que l'orchestre était hors champ, c'est-à-dire qu'on ne voit pas l'orchestre, mais il jouait en même temps que Charlot chantait. Et c'était tourné la nuit pour ne pas avoir le bruit des voitures. Vous voyez un peu le perfectionnisme de Chaplin, il voulait garder le sel, la force du son. Donc être dans un son direct, ce qui est quand même aussi, là encore, très étonnant. Et on va entendre donc pour la première fois la voix de Charlot. Et en même temps, c'est pas forcément évident. Ce sera la seule fois, la première et dernière fois, et ce sera avec cette chanson. Et finalement, c'est assez rigolo parce qu'il parle, mais on ne comprend rien. Voilà, et ça, c'est... Du coup, c'est une super idée parce qu'on garde tout le mystère du personnage de Charlot. C'est-à-dire que c'est quelqu'un dont on n'aura jamais entendu les mots. Ou alors des mots abîmés, écorchés, où il se moque. Voilà. C'est cette façon de dire adieu au cinéma muet. C'est une façon de dire adieu à son personnage avec une élégance infinie, beaucoup d'humour, comme toujours, un sens de la dérision assez étonnant. Pour vous dire aussi que le film a été réédité en 1954, Chaplin faisait ressortir ses films avec des modifications. La rue vers l'or, il a rajouté une voix off, d'ailleurs qui est un petit peu fatigante, pour faire rester ses films dans le marché. Donc il y a vraiment cette volonté, même quand le film est terminé, de le entre guillemets, moderniser, d'ajouter techniquement du son, là sa voix. Mais en fait, on peut voir La rue vers l'or, moi je préfère sans sa voix, je trouve qu'elle n'apporte rien. Mais dans les années 50, ça lui permet de retrouver une bonne réédition. Et puis le film est ressorti en 1954, et je vous l'ai dit déjà, c'est là que la chanson est sortie. Et elle a été enregistrée, j'ai oublié, Nat King Cole et Dalida, mais je n'ai pas retrouvé. Ça s'appelle en français Souris, bon, pas comme Mickey, hein, mais le fait de smile, voilà, souris. Et puis dans les sons, pour être très complet, il y a les aboiements du chien. Donc ça peut être aussi une piste pour vous avec vos élèves, qu'est-ce qu'on a entendu dans le film ? Est-ce qu'on l'a entendu parler ? Alors c'est rigolo parce que c'est des plus petits, mais souvent les petits, quand ils avaient des Chaplin, ils parlaient des couleurs. Ah, j'aime bien quand... Alors que c'était noir et blanc. Donc ça peut être super de voir ce qu'ils ont entendu, en fait, au-delà de la chanson, s'ils ont entendu le chien qui aboie, le bruit des machines. Enfin voilà, ça peut être une question assez simple, mais qui permet une belle entrée de réflexion sur le film. Après, une autre approche, une autre thématique dont je vous ai parlé, c'est le temps. Et c'est un peu comme la question de la place. Finalement, quand on n'est pas à sa place, on n'est pas non plus dans le bon tempo. C'est-à-dire qu'on n'est jamais là au bon moment, ni au bon endroit, ni au bon moment. Donc il y a toujours un décalage. C'est un ressort de l'humour, d'ailleurs. D'ailleurs, on dit, oui, il est décalé, etc. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est marrant. Et il est très marrant parce qu'il n'est jamais dans le bon tempo. La question du temps, elle est présente dès le début du film. Hein, vous avez vu le générique souffle sur une sorte d'horloge géante qui mange littéralement l'écran, avec les aiguilles qui se déplacent. Et on voit que les ouvriers vont vivre la tyrannie du temps. Et on voit d'autres références au temps, la montre à gousset écrasée. Là aussi, c'est presque une dimension politique. J'écrase le temps. Le temps, voilà, c'est quelque chose contre lequel je me bats. Il y a la pointeuse aussi, qui mesure le temps. Et je vous l'ai dit, l'horloge du générique. Il y a aussi l'horloge du magasin, ou la gamine, c'est comme ça qu'on l'appelle, hein, qui n'a pas vu le temps passer. Et puis évidemment, sur la question du rythme et la question de la machine, son rythme effréné, c'est une course à la rapidité avec une vitesse exponentielle. Et la chaîne de montage va s'emballer. Et elle va s'emballer au même titre que la machine à manger. Donc c'est toujours plus vite. Et c'est comment finalement l'homme court derrière la machine, et la machine va toujours plus vite. La machine est toujours gagnante, et l'homme est toujours perdant. Et quand ça va trop vite, forcément il y a du danger, il y a du chaos, il y a du désordre, et il y a du rire. Et c'est ça qui est intéressant, c'est non seulement, comme je l'ai dit, il n'est pas à sa place, mais il n'est pas dans la bonne temporalité. Toujours soit en avant, soit en retard. Toujours... Voilà, et quand il met le sac sous la presse, il a mis trop tôt, il fallait le mettre avant ou après, mais pas à ce moment-là. Enfin, tous ces actes, c'est qu'en fait, c'est jamais le bon moment et le bon endroit. C'est assez simple, mais c'est quelque chose que vous pouvez partager avec vos élèves. Et puis, ce qui est incroyable, c'est que le mouvement est imprimé au corps humain. C'est-à-dire que le corps humain devient lui-même une machine. C'est-à-dire qu'il n'a plus ce rythme normal. On voit Charlot qui sort avec ses pinces, avec des écrous, et qui veut serrer les écrous partout, y compris la dame qui poursuit dans la rue. Alors il a l'élégance, n'est-ce pas, de juste la poursuivre, mais on voit très bien quels sont ses desseins. Et puis, et finalement, sur le... Donc il y a une sorte de Chaplin, qui est une sorte de rouage de la machine. C'est-à-dire que la machine, finalement, avance grâce aussi au travail mécanisé. C'est la mécanisation du geste. C'est ça... Oui, sa déshumanisation et son accélération. Et ça, vraiment, Chaplin est absolument contre. Et puis, évidemment, la chanson, c'est aussi... le tempo, c'est aussi la chanson. C'est aussi le parcours du patin à roulettes. Enfin voilà, il y a tout un travail sur le temps et rater le temps, c'est aussi rater le réveil du matin dans le magasin. Encore une fois, c'était décalé, c'est-à-dire dormir. Vous voyez, il y a deux. C'est typiquement la scène où on le retrouve sous les amas de vêtements. À la fois, il n'est pas au bon endroit, mais en même temps, il n'est pas au bon moment. Et vous voyez, on est sous le double décalage. Et le film joue complètement de ça tout le temps. Pas au bon endroit, pas au bon moment. C'est tout simple aussi, hein, mais voilà, c'est des choses qui peuvent passer avec vos élèves. Évidemment, très, très évidemment, même encore plus, il y a la question du travail, qui est quand même au cœur de la thématique. Plusieurs expériences au travail. Évidemment, ça commence par l'usine, mais il y a aussi gardien de magasin, serveur, il travaille sur le port. Mais encore une fois, c'est quelqu'un qui n'est pas à sa place, c'est quelqu'un qu'on va virer, puisque au sens propre du terme, il n'occupe pas le bon poste, il n'est pas à sa place en tant que salarié, en tant qu'employé. Et puis, c'est quand même très manifeste sur la souffrance au travail. Je vous l'ai dit en introduction, c'est quand même un des rares films, en tout cas de cette époque-là, qui parle d'un burn-out. En tout cas, on parle de breakdown, je ne sais plus le mot anglais, de dépression nerveuse, dans les sous-titres. Donc c'est assez clair, il est hospitalisé. Et on voit quand même le patron, même s'il joue, même s'il lit des mangas, enfin pas des mangas, mais des comics avec Tarzan, et s'il fait des puzzles, il met des petits cachets quand même. On peut penser que, bah, je ne sais pas si c'est un antidépresseur, un calmant, mais en tout cas, il va quand même pas très fort non plus. Donc finalement, sur toute la chaîne, si je puis dire, le travail est synonyme de souffrance, en tout cas de stress. Et puis évidemment, Charlot va casser tout ça avec le rire, en niant les machines et la mécanisation. Et le corps dans la machine, c'est quand même casser les rouages, casser la machine du travail, casser l'outil de production au sens propre, en devenant soi-même une pièce de la machine et en corrompant le système, en faisant arrêter à deux reprises avec son propre corps, c'est une scène assez géniale quand même, hein, dans les engrenages, et ensuite avec le mécanicien. En plus, il l'a redit si jamais on n'avait pas tout à fait compris. En fait, et à partir de là, très bêtement, certains ont conclu un film marxiste. C'est juste un constat, et Chaplin était très vindicatif là-dessus. Pour lui, c'était vraiment un constat et pas quelque chose de politique. C'est ce qu'il avait observé. Et évidemment, il le détourne par le. Donc voilà sur le travail. Et puis, une thématique qui me tient vraiment à cœur chez Chaplin, parce qu'on retrouve tout le temps, c'est le fait de manger. J'en ai parlé déjà un petit peu. Pourquoi on filme le fait de manger? Bon, parce que tout le monde mange. Non, je suis désolé, vous avez dit, j'ai mobilisé tout mon après-midi pour me dire que, m'entendre dire que tout le monde mange. Mais c'est comme le muet, c'est universel. C'est une thématique qui va toucher tout le monde. Et produisant ces films, au début pour les États-Unis, ensuite le monde entier, c'est quelque chose qui touche tout le monde et qui ne passe pas par le langage, qui passe par le visuel. Donc le fait de manger, très simplement, il y a cette universalité. Et puis c'est une époque aussi, très clairement, où les gens ont faim. C'est la grande crise de 29. C'est une sorte de disette permanente. Donc cette thématique, encore que je parlais de l'histoire, c'est un renvoi à l'histoire, quand même aussi, cette façon d'avoir faim tout le temps. Et c'est une question qui est universelle, je vous l'ai dit, qui est au cœur de son cinéma, et qui font que aussi que la question de la survie se posait à tous. C'est manger pour survivre. C'est pas simplement manger pour vivre, mais c'est survivre. Donc il y a un intérêt, un enjeu dramatique aussi. Il ne s'agit pas de manger juste pour se faire plaisir et passer ses jours tranquillement, c'est juste pour survivre, pour rester en vie. Donc on voit d'ailleurs que pour caractériser le personnage de la gamine, la première scène qu'on voit avec elle, c'est quand elle mange des bananes avec délices. C'est parce qu'elle a faim. Voilà, c'est ça son personnage. Son moteur, c'est la faim. Son moteur aussi à lui, c'est la faim. Et c'est souvent un moteur, c'est presque toujours un moteur dans les films de Chaplin. Vous voyez là aussi dans la scène que je vous ai montrée, la scène du repas, voilà, évidemment, ça tangue. Qui va en plus céder son repas, comme là il a cédé le vol du pain en disant c'est pas elle, c'est moi. Il y a aussi cette dimension amoureuse chez Chaplin, mais qui est commune à tout le cinéma. Le repas égale scène de séduction, ou scène d'humour, pour pas dire scène d'amour. Mais en tout cas, il y a ce côté très sentimental aussi qui est attaché à la question du repas. Alors je vais vous montrer un petit extrait de La rue vers l'or qui est sorti en 1925. Qui était, comme je vous l'ai dit, muet lors de sa sortie, qui a fait l'objet d'une reprise en 1942, une version plus courte et sonorisée par Chaplin lui-même. C'est lui qui dit le texte. C'est-à-dire que c'est quand même l'homme qui fait tout. Et il a donc resonorisé le film avec cette idée aussi d'autopromotion. Ça se passe en 1800, c'est censé se passer en 1898 dans le grand nord-ouest du Canada, et c'est la ruée vers l'or au sens propre, c'est-à-dire qu'on cherche du métal précieux. Et Charlot va être surpris par une tempête de neige et va trouver ce refuge dans une cabane qui renvoie d'ailleurs à la cabane un petit peu qu'on voit dans le film, qui est assez touchante. Et c'est une scène culte. C'est pas celle des petits pains que vous connaissez par cœur, mais c'est une autre que je trouve aussi intéressante à vous montrer.
Voilà, donc la ruée vers l'or. Donc la cabane fait furieusement penser à l'autre cabane. Ce qui est drôle, quand même, je trouve, dans cet extrait, c'est le gap entre ce qu'il mange et le cérémonial. Ça commence, il nettoie l'assiette, quand même. Et puis, il y a cette efficacité, je trouve, chez Chaplin, de montrer que c'est sa chaussure, juste un plan de coupe. Il n'a plus qu'une chaussure, l'autre, on voit la chaussette. Et ça suffit. Et ça, c'est la très grande efficacité de Chaplin. Et il y a ce côté très bien élevé, très aristocratique presque, de la pauvreté. C'est peut-être de dignité aussi, qui est importante à signaler dans le personnage de Chaplin. C'est quelqu'un qui est pauvre, mais qui reste toujours digne. C'est-à-dire qu'il y a un vrai savoir-vivre. Il y a une façon de découper la chaussure comme découperait un maître d'hôtel dans un grand restaurant, un poisson ou un poulet, je ne sais pas. Ça nous renvoie aussi à d'autres aliments qu'on voit dans le film. Et puis, ce qu'on voit aussi, c'est que la digestion est toujours compliquée. Ici, des semelles de chaussures. Alors, pour l'anecdote, c'est du réglisse. Ça semble assez évident. Dans les temps modernes, vous avez vu qu'il avale des boulons aussi. Donc, voilà, c'est-à-dire qu'il mange un peu tout et n'importe quoi. C'est pire qu'une poule. Je vais continuer sur cette thématique-là avec repasser la scène de la machine. C'est une des scènes les plus fortes avec celle de son incursion dans les engrenages. En tout cas, c'est une des plus emblématiques de son œuvre et de ce film-là. Alors, des scènes de repas et de boissons dans le film, il y en a énormément. Si vous avez fait un petit peu attention, ça peut être sympa aussi à vos élèves de demander de les repérer très simplement. À la prison, là aussi, vous voyez, quand on met de la drogue à la place du sel, on voit ce qui se passe. Donc là aussi, il y a un rapport compliqué à la nourriture, c'est-à-dire que ce qui va servir à saler va servir à l'empoisonner, entre guillemets. Il y a le thé à la prison avec les borborygmes. On voit que le système gastrique de Charlot est quand même assez compliqué. Ça se passe jamais très bien, avec ces petits bruits qui indisposent la femme du pasteur. Il y a le pain volé par la gamine dont s'accuse Charlot, qui va être le premier signal de la relation amoureuse. Il y a les bananes dévorées par la gamine. Il y a le repas au restaurant, il mange trop. Si on inclut la boisson, il y a les tonodromes qui sont percés et avec lesquels il va s'enivrer. Et vous voyez que chaque fois, la nourriture est aussi une façon, de déplacer. C'est-à-dire qu'elle n'est pas là pour nourrir, mais elle est là pour amuser, pour mettre le chaos. En fait, voilà, il sert de la nourriture. On ne joue pas que la nourriture, mais en fait, il ne fait que ça. Ça va à l'encontre du dicton des parents. Il y a le petit déjeuner aussi, qui est un grand moment, je trouve, servi dans des boîtes de conserve. On sert le thé avec le toast aussi à deux étages, où c'est trop gros, il ne mange qu'un, après il remet le pain. Enfin, voilà, tout ça. Et puis, quand il va rêver du repas, de la scène idyllique d'une petite maison, ce fantasme de classe moyenne, qu'est-ce qu'on fait dans une classe moyenne? On mange. C'est-à-dire qu'en plus, il y a une sorte d'Éden, il se penche pour l'orange, il mange un grain de raisin qui pend du côté de la porte, la vache arrive, le lait, enfin, c'est quand même génial. Et évidemment, tout ça est très ironique, mais en tout cas, voilà, le fantasme de Charlot, c'est de manger, en fait. Tout simplement. Et puis évidemment, il y a une sorte de réplique à la scène qu'on va remontrer là, parce qu'elle est quand même vraiment exceptionnelle. Il y a son collègue, enfin son patron mécanicien, qui est dans les engrenages coincés et à qui il va infliger un pique-nique. Alors, c'est vraiment sans infliger, avec dans la bouche, je ne sais pas ce que c'est, du fenouil ou du céleri. Ouais, du céleri branche. Heureusement, ce n'est pas l'œuf dur. Et puis le détournement de l'entonnoir, qui est là pour de la graisse, qui va servir pour le thé. Donc là encore, détournement des objets, qui est aussi un grand ressort comique du cinéma de Chaplin. On est plus dans l'ordre du gavage que dans le fait de manger, hein, quand même. C'est vraiment une ingestion, c'est une sorte de façon brutale de mettre sa bouche et son estomac, œsophage, etc. en rapport avec la nourriture, avec toujours des effets. Le hockey, qui est encore là, est une marque de fabrique, ça ne rentre pas, quoi. Ça marche pas. Donc manger pose un problème, ne pas manger pose un problème, tout pose problème avec la nourriture. Donc on va revoir cette scène qui est quand même assez, assez magistrale. Pas pratique, hein. on est bien d'accord. Pourquoi je voulais vous remontrer cette scène? Parce que déjà, c'est une des rares scènes où on voit à ce point le visage de Charlot. Souvent, on voit son corps, on le voit bouger dans l'espace. Mais là, on n'est pas en gros plan, mais on a un plan très rapproché. Et je trouve qu'il y a un effet loupe sur son visage et ses mimiques qui est assez rare dans son cinéma. Tout le reste du corps est immobile, immobilisé, il est sanglé, il est attaché. Mais on ne canalise pas Charlot. C'est-à-dire que le visage, on ne peut pas l'éteindre, on ne peut pas le faire rentrer dans le rang. Son visage est une sorte de bouillonnement d'émotions, de grimaces, de gestes. Je vous ai dit tout à l'heure, il joue avec son nez. Enfin, je connais peu d'acteurs qui ont joué comme ça avec leur nez. Il joue avec ses yeux, il joue avec l'étonnement des yeux, il joue avec la bouche, évidemment, avec un côté très douloureux aussi, quand même. C'est une scène qui est assez violente. Et puis, il y a toujours cette petite touche que je trouve assez chaplinesque du savoir-vivre, avec l'idée d'une espèce de tampon qui est censé lui tamponner la bouche, comme s'il se tamponnait avec délicatesse. La bouche qui renvoie à la scène aussi du mécanicien qui va, bon, il va un peu loin parce qu'il fait aussi les narines, c'était pas prévu, mais c'est jamais prévu avec Chaplin. Il va comme ça lui tamponner la commissure des lèvres avec une sorte de délicatesse, alors que la situation est complètement catastrophique et hors de contrôle. Et là c'est pareil, une espèce de contraste entre la situation, une espèce de savoir-vivre, même si là c'est un bras mécanique, et c'est ça qui fait rire aussi, c'est-à-dire il a pensé la machine avec le petit tamponnage de la bouche, des lèvres, qui est vraiment étonnant. Et je la trouve aussi intéressante, parce que là encore, c'est la question de place et de rythme et de temps. Il est immobile, avec une machine qui va vite, de plus en plus vite, qui va extrêmement vite, et qui dérape complètement. C'est-à-dire que la machine dérape comme elle a dérapé avec tout le système des engrenages. C'est le rythme de Chaplin n'est pas soluble dans le rythme de la modernité. Et je trouve qu'il y a un vrai travail de mise en scène. Je parlais tout à l'heure du gros plan qui est vraiment fort. Et c'est toujours à la limite de presque de sa vie ou de sa. C'est ça qui rend aussi le film de Charlot, enfin Chaplin, très fort, c'est que la mort ou la souffrance n'est jamais très loin. Les patins roulettes, c'est pareil, il est à deux doigts de se casser la figure de manière assez catastrophique. Il a deux doigts d'être étouffé par les boulons. Encore une fois, vous voyez, c'est quelqu'un qui mange n'importe quoi. Mais alors, c'est pas forcément de son fait. Là, on essaye de lui faire avaler les boulons, et ça provoque évidemment des catastrophes. Ça m'a fait penser à un autre grand inadapté, c'est Jacques Tati. Si, je sais qu'à une époque, mon oncle était dans le collège au cinéma, et j'ai pensé à ça notamment dans La Fabrique des saucisses. Si vous vous souvenez, cette espèce de grand ballon de baudruche gonflable qui se dérègle. Là aussi, c'est un dérèglement de la machine. Et puis, il y a aussi tout un. On peut mettre aussi en parallèle. Alors, c'est un burlesque. Hein. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'un comique très physique, très. Parfois. Alors, pas violent chez Tati, mais qui emploie beaucoup la chute, la tâche, la glissade, la collision. C'est ce qu'on appelle le splastic. Donc, c'est le genre comique des années 30, qui sera repris par des gens comme Louis de Funès, quand même. Et puis aux États-Unis, Jerry Lewis, pour vous dire que c'est un genre qui a perduré un petit peu, mais très peu. En tout cas, par rapport à cette scène-là, c'est vraiment une pure scène de plastique, de burlesque, et qui n'est pas que l'apanage du mieux, parce que je vous ai donné quelques suites, et aussi Jacques Tati, ce rapport à la nourriture aussi, je pense encore une fois à mon oncle, le buffet, tous les bruits, ce côté de ce film qui est presque muet aussi. Donc voilà, si vous avez... le DVD de mon oncle, ça peut être aussi quelque chose à mettre en regard. Alors avant de... Alors je sais que certains sont un petit peu plus pressés que 17h30, j'ai un petit peu accéléré. J'irai pas jusqu'à la torture, mais il dénonce... c'est le taylorisme, c'est pareil. Parce que l'idée, c'est de faire une pause la plus courte possible. C'est ça l'idée de la machine. C'est qu'on mange très rapidement pour que la journée soit hyper productive. Donc c'est dans la continuité de la dénonciation... De ce qu'il a dénoncé avant. Mais je ne pense pas que ce soit une dénonciation de la torture au sens torture physique. Je n'irai pas jusque-là. De la rapidité, c'est vrai, et de la surveillance.
Voilà.
Et là, on est sur un truc assez étonnant, parce que je ne pense pas que ça existait à l'époque, hein. Il était assez, c'est l'écran de génie, c'est prémonitoire, c'est la surveillance du travail, la surveillance de l'homme, du salarié, etc. C'est vrai que ça renvoie... Mais le film est très contemporain, hein. Enfin, sur la thématique, malheureusement, le chômage, la souffrance au travail, qui est quand même un thème très fort aujourd'hui. Je trouve que voilà, le film a toute sa place. Aujourd'hui, comme je vous le disais, parler du burn-out en 1936... Moi, j'en vois pas d'autres. Alors, sur les ravages du travail, sur la misère, etc., mais sur l'incidence du travail sur l'homme, on peut aussi faire un parallèle avec l'IA aussi, hein, aujourd'hui, qui essaie de remplacer la pensée. Là, c'est un remplacement mécanique, remplacement des bras et des corps. Mais l'IA est un remplacement de la voix, de la parole, de l'imaginaire, etc. Donc, et là aussi, le film peut résonner avec l'actualité. Enfin, je trouve, par rapport à des thématiques. Alors peut-être les 6e, 5e sont petits, mais l'IA, ils connaissent. Hein, donc c'est quelque chose qui peut leur parler. On a parlé de Big Brother, mais il y a aussi un côté... alors ils se connaissaient un petit peu proche de George Orwell, hein, le côté 1984 aussi, dans les références. Pourquoi pas lire des extraits. Ce qui est important, c'est quand même, parce que j'en ai peu parlé, mais c'était quand même sous-jacent, j'espère... tout le temps, c'est le rire, quand même. Qu'est-ce qui fait rire aussi? C'est ça. Bon, alors, j'ai parlé évidemment des deux ressorts principaux, hein, le temps et la place, c'est-à-dire pas au bon endroit, pas au bon moment. Mais voilà, demandez à vos élèves ce qui les fait rire, pourquoi ça les fait rire, est-ce que c'est encore drôle aujourd'hui, est-ce que ça peut être ringard, parce que moi, j'ai présenté il n'y a pas longtemps la scène des petits pains, on m'a dit oh, c'est fastoche, ben, vas-y, hein, les petits pains. Moi, je l'ai revu, la scène des petits pains, et il fait tout jusqu'au salut. Et puis pareil, dans les petits pains, c'est les mains, mais c'est le visage. C'est-à-dire que ça fait un tout. Enfin, voilà, ça peut être intéressant. Ce que Chaplin en a dit, je trouve ça assez beau, hein, ce ne sont ni des rebelles ni des victimes, mais les deux seuls esprits vivants dans un monde d'automates. Je pense que ça peut résonner aussi aujourd'hui. Donc ce ne sont ni des rebelles ni des victimes, mais les deux seuls esprits vivants dans un monde d'automates. Nous sommes des enfants sans aucun sens des responsabilités. Le reste de l'humanité est accablé par ses devoirs, nous sommes libres en esprit. Je trouve que c'est une belle idée de la liberté aussi, le rire comme casser les chaînes du travail, casser les chaînes de la société. Il y a un petit côté évident, un petit peu anarchiste, pas déplaisant. Alors dans les ressources, j'en ai parlé un tout petit peu, il y a une autobiographie qui se lit, mais alors c'est passionnant, ça s'appelle tout simplement « Histoire de ma vie », ça existe en poche. Tout bon CDI devrait avoir ce livre-là. Il raconte la misère de l'enfance, il raconte les repas du dimanche, le rêve devant les vitrines, la faim en permanente, la maladie de sa maman, ses frères. C'est vraiment génial. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais ça se lit comme du Dickens. Enfin, c'est vraiment sur l'Angleterre de la fin du 19e. Ça s'appelle juste Histoire de ma vie. Et c'est vraiment exceptionnel. Je vous ai cité le site charliechaplin.com. /.fr, comme ça vous l'avez en français. Et c'est une belle ressource. Alors je ne sais pas qui... C'est une association, hein, qui soutient Chaplin. Si jamais vous avez des sous avec votre CDI, je vous invite à un truc génial, c'est d'aller visiter la maison de Chaplin à Vevey en Suisse. Alors c'est un petit peu loin, c'est un petit peu cher, je dis ça, je rêve un peu. Mais franchement, c'est exceptionnel. C'est vraiment... Il y a une... Ah, vous connaissez. C'est génial, non? En famille, bah oui, c'est plus compliqué. Ouais, c'est super parce qu'il y a une salle de projection en plus où il y a des films en boucle. On entend les gens rire dans la maison parce qu'il y a des extraits partout. Et c'est là qu'on voit que c'était vraiment un cinéaste. Vous rentrez dans son salon et la fenêtre, évidemment vous avez le lac, les Alpes, c'est un plan de cinéma. C'est-à-dire voilà, quelqu'un qui savait... Bon, il a pas fait la maison, enfin, je crois pas. Il l'a acheté. Mais il a, je pense que le manoir, il a cette fenêtre, enfin le salon principal... Vous dites, bon, on est chez un cinéaste, c'est quelqu'un qui sait où mettre sa caméra, où regarder. C'est vraiment exceptionnel. Et puis, alors, moins cher, je vais faire la promotion, moins compliqué à organiser. Aux écrans du Sud, on a deux boîtes qui s'appellent Cinément. Est-ce que tu peux faire ça plutôt quelques éléments. Cinément, c'est une boîte qui a été inventée par une institutrice, Sylvie Matteo, qui est assez basique. Si je puis dire, c'est revenir à quelque chose de très matériel. Elle a choisi, alors dans ce coffret-là, dans le coffret numérant, il y a Les Migrants, dont je vous ai montré un petit extrait. Et dedans, il y a des photogrammes, donc des images. Elle les a choisis très, avec beaucoup d'attention, pour les différents plans, un grand plan, un plan rapproché, etc. Et je ne sais plus combien il y a de cartes, une trente, quarantaine.
C'est du court-métrage. Hein.
Donc il y a une boîte qui est ici, c'est le petit moment en promotion des écrans du Sud, c'est la boîte numéro 1. Et dedans, donc, vous avez des aimants. Et c'est super parce que vous pouvez mettre toutes les images sur un tableau, demander à des élèves, va chercher l'image que tu as préférée dans le film. Ça peut être une très belle séance avant ou après le film. L'image qui te fait rire. Raconte-moi l'histoire en 3 images. Qu'est-ce que je peux imaginer encore ? Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de pistes pédagogiques. En plus, l'intérêt de cette boîte, qu'on peut vous prêter, je crois, Céline, non, si besoin, on peut la prêter, parce qu'il n'y en a plus beaucoup. Il y a la clé dedans, c'est-à-dire que vous avez le court-métrage qui est dedans, donc vous n'avez plus qu'à mettre sur l'ordinateur et brancher le vidéoprojecteur, et vous avez les droits sont inclus. Donc il y a 3 films dedans, dont Les Migrants, et ça peut être une très belle introduction, enfin je trouve, à la séance avec vos élèves, ou après le film. Voilà, ça peut être une initiation au langage cinématographique, aller chercher les plans rapprochés, aller chercher les plans d'ensemble, aller chercher les plans où il n'y a pas Charlot, où il y a Charlot, les plans encore une fois drôles, les plans où on voit un bateau, les plans où on voit la mer, imaginez une autre fin, dessinez vous-même une autre fin. Enfin voilà, c'est très très riche et ça peut être un très bon complément pour ce travail-là. Et puis, je ne sais pas si vous les avez... Ça existe encore sous forme de papier, parce que moi, je suis un peu un dinosaure, mais oui.
Non,
c'est fini. Mais il y avait des très beaux livrets, mais qui sont en ligne maintenant, dans Transmettre le cinéma, où vous pouvez les télécharger, et c'est vraiment de qualité. Donc, c'est les livrets Collège au cinéma, sur le site Transmettre le cinéma. Et ben, vous avez la fiche élève, et vous avez aussi